J'ai dû batailler un peu ici parce que j'avais une grippe et au lendemain de la grippe, on n'est jamais la forme olympique non plus. Donc c'était un peu difficile, mais Dieu avait déjà pourvu avant ma grippe à la parole que je devais donner. Donc merci Seigneur. Alors le temps que Rémi se mette sur la première diapo, puisque j'accompagne mon message d'un diaporama, comme ça c'est plus simple. C'est Michée 7, donc tu le vois, Michée 7. Voilà. Oui.
Alors, ici comme ça, ça devrait le faire.
Ça fait, voilà.
Pas encore.
Voilà. Très bien. Parfait. Voilà. Alors donc ça, il n'y a plus besoin. Très bien. Je vais peut-être prier, demander l'aide du Saint-Esprit. Hein. Saint-Esprit, je ne m'appuie pas sur mes forces ce matin, d'autant plus ce lendemain de grippe. Et Seigneur, je m'appuie sur ta grâce et sur ta bonté. Et merci Seigneur, que la parole pénètre profondément et renouvelle, nous renouvelle dans notre zèle pour toi. Merci Seigneur, louange à toi, merci pour ce moment riche que tu nous as donné, centré sur toi Seigneur. On a pu te dire merci, on a pu être centré sur toi et on est édifié. Quand on est décentré de nous-mêmes pour être centré sur toi, on est renouvelé. Merci Seigneur, louange à toi pour ce que tu fais en Éthiopie, pour ce que tu fais, ce que tu vas faire à Cambrai. Louange à toi pour tout ce que tu veux faire encore ici à Wavrin, malgré le petit nombre. Seigneur, merci. Merci pour les projets que tu as encore. Amen. Amen. Parfait. Alors, ça c'est un texte d'introduction. J'insiste, c'est uniquement l'introduction. Parce que quand, à la fin de ce texte, vous allez dire, oh là là, c'est négatif, c'est noir. On est là le dimanche pour s'édifier, vous êtes d'accord? C'est uniquement l'introduction pour rappeler quand même le contexte particulièrement difficile dans lequel se trouvait le prophète Michée. Des fois, on se dit, on est dans un contexte difficile, mais on est loin encore de ce contexte ou d'autres contextes dans lesquels vivent notamment les chrétiens persécutés. Mais alors donc, en fait, je vais me centrer sur une parole qui suit ce paragraphe et qui est une parole d'espérance. Donc, je vous rassure tout de suite, hein. Mais on va lire quand même ces six versets qui indiquent le contexte dans lequel Michée a exercé son ministère, le prophète. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Point de grappes à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les paroles de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ça nous rappelle une parole de l'Évangile. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, quand on lit le commentaire du livre de Michée, on réalise que c'est un contexte de crise sociale, marqué par une violence généralisée. Des commentateurs osent qualifier l'époque qui a vu naître donc le ministère de Michée d'une époque de violence généralisée. Expropriation, vol, oppression, corruption. Et c'est dans ce contexte de désordre social que Michée a pris le risque de se présenter publiquement comme visionnaire et porteur de la parole de Dieu. Une parole qui s'oppose à toutes les formes de violence faites aux faibles, aux pauvres, à l'abus du pouvoir et de l'autorité. Alors on peut faire un léger parallèle avec notre époque où beaucoup soulignent en ce moment le regain de violence. On n'en est pas là quand même encore. Chacun en embuscade pour verser le sang. On n'en est pas là. Hein. Mais beaucoup soulignent ce regain de violence en ce moment. J'attire votre attention sur le dernier verset. Donc chacun aura pour l'ennemi les gens de sa maison. C'est Jésus qui rappelle ça dans Matthieu pour indiquer que son retour approche. Alors, ce contexte où chacun a pour ennemi les gens de sa maison, c'est un contexte vécu par beaucoup de chrétiens sous la persécution. Dans des pays d'arrière-plan musulmans, les gens qui se convertissent sont menacés par les membres de leur famille, de leur propre famille, menacés d'expulsion, menacés de quitter le village, menacés de mort pour certains. Donc c'est pas si loin de la réalité, ça. C'est une réalité qui est vécue dans les pays persécutés. Mais ça relativise notre difficulté que nous vivons, on n'en est pas là encore. Alors nul doute que dans ce contexte, Michel a une parole pour nous. Dieu a quelque chose à nous dire. Dans ce contexte, il y a un regain de violence un peu. Dieu a quelque chose à nous dire à travers Michel. Et le prophète a une parole d'espérance que je vais lire dans un moment, je vais vous le montrer. Dieu a toujours une parole d'espérance. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, Dieu a toujours une parole d'espérance. Si désespérée la situation soit-elle. Je me souviens de ce culte qu'on avait fait, on avait prié spontanément le lendemain de l'attentat du Bataclan. Et au cours du culte, Dieu m'a parlé à travers une parole de Michée aussi. Et Dieu m'a rappelé une parole de Michée qui est un peu plus loin. Et Dieu m'avait souligné ce texte de Michée 7. Donc, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'étais comme une injonction que le Seigneur disait à son Église dans ce temps où il y a de l'arrogance, où il y a de l'orgueil, où il y a un manque de miséricorde, ou d'empathie, de compassion. C'est comme si le Seigneur disait, il est urgent que l'Église témoigne d'une marche dans l'humilité, dans cette dépendance. Et voilà que dans ce contexte aujourd'hui, Dieu me parle à nouveau à travers une parole de Michée. Après tout ça, que dit Michée ? Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Voilà la parole. Michée décide de regarder vers l'Éternel en qui il met toute son espérance. C'est un rappel pour nous ce matin. Je crois que Dieu nous dit ce matin, attention mes enfants, où est votre regard en ce moment ? Satan, mon adversaire, a un stratagème, vous inondez de mauvaises nouvelles. Et on sait que ces mauvaises nouvelles, elles viennent et elles passent sur certaines ondes, ces chaînes 24 heures sur 24. On les a en permanence, 24 heures sur 24. Ces mauvaises nouvelles, drames, catastrophes, injustices qui peuvent s'ajouter à des mauvaises nouvelles dans le domaine de notre vie personnelle, peuvent nous inonder, nous engloutir et enlever notre espérance parce que nous négligeons de regarder à Dieu. Regarder à Dieu peut tout changer. Et nous devons nous rappeler cela. Regarder à Dieu peut tout changer. Combien on a d'exemples dans la Bible et dans la vie des chrétiens, même aujourd'hui, dans l'histoire des chrétiens, de situations changées, de comportements changés par simple regard vers Dieu. Allez, je m'arrête sur quatre situations. Deux dans la Bible, et deux, dans la vie de chrétien de notre génération. Job. On a, ces derniers temps, fait un parcours biblique avec des catholiques de la paroisse. On était avec eux sur le livre de Job. Et ça m'a frappé de nouveau me pencher sur l'histoire de Job. Hein, vous connaissez bien sûr son histoire, hein, tout ce qui lui est arrivé. Et Job est tourmenté par ce qui lui arrive, il est en questionnement, en pleine contestation avec Dieu, même s'il y a des élans de foi, quand il dit « je sais que mon Rédempteur est vivant ». Mais quand est-ce qu'il a seulement retrouvé la paix, la sérénité? Quand il a eu son face-à-face avec Dieu. Au chapitre 38, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et puis il y a plusieurs chapitres où ce qui est frappant quand même, c'est que Dieu ne lui dit pas un mot sur les causes de sa souffrance. Pas un mot sur les causes de sa souffrance, notamment le contexte de la rencontre de Dieu avec Satan qui vient l'accuser. Rien. Pas un mot. Dieu parle seulement de ses merveilles. Et Job, au chapitre 42, dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. J'ai parlé sans comprendre des merveilles de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ce face-à-face de Job avec Dieu a tout changé, ce qu'aucun des discours de ses amis. Aucun. Étienne, le martyr d'Étienne, vous connaissez. Ah, Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. Il devait être quelqu'un qui regardait à Dieu sans cesse. Et même dans les moments les plus critiques, il n'a pas négligé de regarder vers le ciel. Même dans les moments les plus critiques. Particulièrement lorsqu'il était arrêté par Saul de Tarse et a comparu devant le Sanhédrin. Donc, je lis quelques versets là dans Acte 7. À partir du verset 54, en entendant les paroles d'Étienne, ils étaient furieux, les pharisiens notamment, enfin tous ceux qui l'arrêtaient, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux vers le ciel, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Étienne priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Il s'endormit. Wow, vous voyez les effets d'un regard vers le ciel. Étienne s'endormit. Si on doit mourir martyr, j'espère qu'on s'endormira aussi. J'espère. Et je crois que Paul a été marqué certainement, Saul de Tarse, par ce regard lumineux d'Étienne, qui voit Jésus en roi près de son Père dans le ciel. Il s'endormit. Alors maintenant, je prends deux exemples simplement de chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez ce visage? Non? Ça ne dit rien à quelqu'un? C'est un pasteur, je pense, d'origine suisse. Il s'appelle Michel Renevier. Michel Renevier a été pasteur en Suisse. Il est décédé il y a peu de temps, en 2017, je crois. Il a exercé un ministère itinérant dans plusieurs pays francophones. Il a vécu une terrible épreuve. Alors qu'il était dans sa voiture en compagnie de ses trois enfants, il était percuté de plein fouet par une moto qui roulait à grande vitesse et qui roulait à gauche d'ailleurs. Ouais. Et donc, ce qui a provoqué l'incendie de la voiture, les deux enfants, garçons derrière, par miracle, s'en sont sortis, mais la fille qui était devant, impossible de se dégager. Et lui, il a fait tous ses efforts pour essayer de la dégager, jusqu'à être brûlé très gravement. Il a eu 30 opérations suite à ça, mais il n'a pas pu sauver sa fille, qui venait de vivre un baptême dans le Saint-Esprit, quelques jours avant. Alors voilà, ça c'est l'histoire du pasteur Renevier, mais moi j'ai entendu son témoignage avec le témoignage de son épouse. Et son épouse était tellement marquée par cette tragédie qu'elle a fait une dépression pendant 2 ans. Pendant 2 ans, elle était inconsolable. Elle disait, mais Dieu, comment je peux être consolée de ce qui est arrivé? Et un jour, elle a eu un face-à-face avec Dieu, où Dieu lui a juste dit un mot, une phrase. elle a comme presque entendu audiblement la voix de Dieu qui lui a dit, ta fille, si tu savais comme je l'aime. Ta fille, si tu savais comme je l'aime. Cette phrase a apaisé cette maman endeuillée. Et la dépression s'est arrêtée. La dépression s'est arrêtée. Elle est sortie de sa dépression. Dans ce face-à-face avec Dieu. Et là, ça vous rappelle quelqu'un, ceux qui ont assisté au dimanche de l'église persécutée. Gladys, là on est vraiment aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui. Michel Renouvier, c'était il n'y a pas très longtemps, mais les témoignages de Gladys, cette femme au Kenya. Et donc on a écouté sur vidéo son témoignage, le dimanche de l'église persécutée. Et elle raconte aussi comment c'était dur, elle restait sur une rancœur, une colère, parce qu'elle était témoin de l'assassinat de son mari, médecin généreux, qui était toujours plein de bienveillance envers ses malades, et qui était assassiné alors qu'il proposait la prière pour l'un de ses malades. Et donc, 2-3 jours après cet événement, elle priait ainsi, « Seigneur, donne-moi vite de pardonner, d'avancer, de ne pas rester sur cette douleur, sur cette colère. » Et un matin, elle a dit à Dieu, « Seigneur, pourquoi ? Il faut que tu me dises. » Et la nuit suivante, Dieu lui a donné une vision. Elle s'est vue en vision, dans une belle prairie, rappelez-vous, hein, le soleil brillait, sans brûler, mais réchauffait son corps. Il y avait des fleurs magnifiques, des papillons magnifiques, une odeur délicieuse, une petite musique avec le scintillement d'un carillon. Elle avait l'air très heureuse. Et Dieu lui a dit aussi quelques mots qui l'ont apaisée. Et elle souriait dans sa vision. Et au réveil, la rancœur avait disparu. Dans ce face-à-face avec Dieu. J'ai pris exceptionnellement des situations parmi les plus extrêmes pour vous encourager, pour nous encourager, de ce qui peut arriver quand on a ce face-à-face avec Dieu. Et ce matin, avant le message, Dieu me rappelait plusieurs circonstances dans ma vie où je me souviens d'un camp, j'étais tout jeune, je faisais un camp avec les semailles, et mon groupe de jeunes, ça marchait pas du tout, ils étaient infernaux, j'étais dépassé par les événements, et comme j'étais incapable de skier, j'ai dit, je vais pas aller au ski, je vais aller prendre une demi-journée pour un moment face-à-face avec Dieu. Et dans ce face-à-face avec Dieu, Dieu m'a fait prendre conscience que j'avais exagéré vis-à-vis d'un gamin, j'ai demandé pardon au gamin. Et Dieu a, en une demi-journée, a changé l'atmosphère de mon groupe. C'était plus le même groupe. En une demi-journée. Dieu m'a rappelé d'autres circonstances comme ça aussi, où j'étais dominé par la peur par rapport à une nouvelle responsabilité dans mon travail. Et je suis mis à genoux dans une pièce, j'ai pris un temps de face-à-face avec Dieu. Et la peur s'est enfuie. La peur a disparu. Bien souvent, seul un regard vers Dieu peut faire disparaître une colère, une rancœur, une peur panique, une confusion, une incompréhension, une mauvaise interprétation d'une situation. Sa lumière nous rend la lumière sur nous-mêmes. Il est urgent de regarder à Dieu pour rester dans la lumière. Et si on a perdu cette lumière, dans ce face-à-face avec Dieu, Dieu veut la rallumer. On a entendu ça au Château Blanc, hein, que Dieu voulait, pour ses enfants, rallumer la lumière qui parfois manque, est éteinte. Alors, entendons cet appel du prophète Michée à regarder à Dieu et à mettre notre espérance en lui dans ces temps qui vont peut-être devenir de plus en plus difficiles. Il y a l'urgence que nous, chrétiens, nous entendions cet appel. Alors je termine en rappelant quand même, regarder à Dieu, c'est quoi ? C'est fixer nos regards sur Jésus, bien évidemment. Hébreux 12, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. fixer notre attention. Dans le mot attention, il y a le mot attente. On fixe notre attention sur Jésus dans une attente confiante. Si je ne m'attends pas à ce que Dieu me parle, il va y avoir un problème. C'est Jacques qui nous le rappelle dans son épître. Nous fixons notre attention sur celui de qui vient toute grâce, tout don parfait, celui qui est toujours notre avocat et qui présente, on l'a chanté, son sang à la croix contre toute condamnation de l'ennemi, toute accusation de l'ennemi. Regarder à Jésus, c'est donc bien sûr regarder à la croix. Mais fixer notre attention sur Jésus, ça sous-entend qu'il faut peut-être décrocher notre attention d'autre chose. Décrocher notre attention. Ça, c'est un peu une image de BFM, là, où toutes les actualités passent. Si je suis sans arrêt en train de revoir ces images de violence et de machin et tout ça, et sans arrêt je me nourris de ça, ne fixons pas notre attention sur les mauvaises nouvelles. Ça va nous engloutir. Ça va nous. Il ne s'agit pas de nier la réalité, attention. Hein. Il ne s'agit pas d'être dans un cocon et d'ignorer la réalité, du tout. Du tout, du tout. Il s'agit d'être bien informé, mais décrocher notre attention. Après, ça peut être d'autres écrans qui attirent notre attention. Ouais. D'autres écrans. Vous savez. Le smartphone, voilà, hein, ça peut. C'est important d'en décrocher aussi. Sans écran, c'est les soucis. On peut ruminer. Et ruminer. Le Seigneur, quelquefois, nous demande de décrocher notre attention de ce ruminement, je ne sais pas comment dire. On est là, on repasse les soucis. On repasse et dit « Seigneur, comment ça se fait ?» Enfin, voilà. Des fois, il faut prendre position, prendre autorité. Ça m'est arrivé quelquefois de prendre autorité au milieu de la nuit en disant « Stop, ça suffit, stop, terminé. » Ouais, stop. On a toujours le choix de dire non. Et ça, c'est l'ennemi, un piège de l'ennemi, c'est de penser qu'on n'a plus le choix. Non, on a le choix de dire non, encore. Stop, ça suffit. J'arrête de ruminer. Après, si c'est pas les soucis, ça peut être les divertissements. Je dis pas qu'il faut pas se divertir, hein, d'accord. Dieu est le Dieu de la joie, hein, vous le savez. Mais on peut aussi se disperser dans toutes sortes de divertissements. La parole de Dieu nous met en garde, hein, que les plaisirs et les soucis de la vie n'appesantissent pas notre cœur. Donc voilà, fixer notre attention, c'est décrocher notre attention. Regarder à Dieu, c'est réserver nos plus grands efforts à chercher la face de Dieu. C'est un défi constant qu'on a à remporter là. Il faut qu'il y ait 7 temps réguliers. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas 7 ans, qu'on n'est pas en communion. Je parlais souvent de la conversation avec Jésus, d'avoir en permanence cette conversation. Mais aussi de mettre nos plus grands efforts à chercher la face de Dieu. Je voulais juste, à ce propos, petite parole de... Vous connaissez ce livre, Un moment avec Jésus? Je vous le conseille, vraiment. Vous le trouvez à la CLC. Et Jésus nous parle à travers cette parole. Il nous dit ceci. Réserve tes plus grands efforts à la recherche de ma face. Je communique constamment avec toi. Pour me trouver et entendre ma voix, tu dois me chercher par-dessus tout. Tout ce que tu désires plus que moi devient une idole. Lorsque tu t'obstines à faire les choses à ta manière, tu m'effaces de ta conscience. Au lieu de foncer tête baissée vers ton objectif, commence par en parler avec moi. Laisse la lumière de ma présence éclairer cette démarche, afin que tu puisses la voir avec mon regard. Si l'objectif que tu veux poursuivre entre dans mes plans pour toi, je t'aiderai à l'atteindre. S'il est contraire à ma volonté pour toi, j'orienterai progressivement ailleurs les désirs de ton cœur. Recherche-moi d'abord avant tout le reste. Les autres pièces du puzzle que constitue ton existence se mettront alors tout naturellement en place. Amen. Et enfin, dernier point, j'arrive au bout. Oui, deux points, pardon. C'est une promesse que j'avais eue en 2018. Psaume 107, verset 36. Il établit les affamés. Mettre tous ses efforts à la recherche de Dieu, c'est vraiment notre identité d'enfant de Dieu affamé. Et Dieu dit toujours dans sa parole qu'il établit les affamés. Même s'ils passent par des temps de désert, il va les établir. Il va les établir dans des sources d'eau vive. Il fera d'eux des fondateurs. Il fera d'eux qui vont semer, qui vont porter du fruit, malgré les temps de désert. Lisez psaume 37, verset 9. Le psaume 107, il est magnifique ce psaume. Il établit, Dieu m'a rappelé cette promesse, il établit ceux, les affamés. Celui qui met tous ses efforts à la recherche de la face de Dieu. Et dernier point, souvenons-nous d'où nous venons. Vous savez, Dieu, à son peuple, pour l'encourager, il lui a dit souvent, souviens-toi d'où je t'ai pris. Dans Deutéronome 32, 10, il dit, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et ça, ça aide le peuple. Et ça, moi, ça m'aide. Je ne sais pas si ça vous aide, mais moi, ça m'aide de savoir que c'est Dieu qui m'a choisi, qui est venu me chercher. C'est lui qui m'a entouré, qui a pris soin de moi, qui m'a gardé comme la prunelle de son œil. C'est vrai pour nous. C'est ce sentiment d'appartenance. Vous savez, quand on est un peu éloigné, le Saint-Esprit nous rappelle ça. Hé, Jean-Luc, d'où tu viens ? Je t'ai cherché. Je t'ai trouvé. J'ai pris soin de toi. Et là, ça m'aide à me dire, ah oui, oui. Ah Seigneur, oui, je t'appartiens. Ah oui, oui, il faut que je m'occupe de toi. Il faut que je m'occupe de tes affaires. Vous voyez, on est repris. Le Saint-Esprit nous remet en route quand on se souvient d'où on vient. C'est Pierre qui dit « Affermissez votre élection. » Dieu vous a choisi et appelé. Ayez donc plus de zèle pour confirmer et affirmer par votre vie cette vocation et cet appel. Car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Ce souvenir d'où on vient va nous aider à ne pas faire les faux pas. Dieu m'a choisi. Il m'a gardé. Il me gardera encore. Il a mis en nous comme un sceau, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, j'ai mis un sceau sur ton cœur. On est tous des circoncis de cœur. On a ce sentiment d'appartenance. Et ça, ça nous aide à continuer à être des chercheurs de Dieu. Pour regarder à lui dans ces temps difficiles. Pour ne pas négliger de regarder à lui et pour rester dans la lumière. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à prier. Fermez les yeux, on va prier, puis on va proclamer après, juste à la fin de la prière, ce que Michel a proclamé. D'accord ? Voilà, merci Seigneur pour l'invitation que tu nous adresses ce matin par cette parole du prophète Michel. Oui, pour moi aussi, en dépit des mauvaises nouvelles qui m'assaillent, quelquefois, qu'elles soient dans le domaine de ma vie personnelle ou de mon pays, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Et vers Jésus mon Rédempteur, vers Jésus celui qui est ma lumière. Un regard vers toi Jésus, je suis apaisé. Aussi je veux réserver mes plus grands efforts à la recherche de ta face. Pour demeurer et rester dans ta lumière. Seigneur, je t'en prie, renouvelle en moi et en chacun de nous le zèle pour chercher ta face. Je vous invite à vous lever. Et on va proclamer ensemble Michée 7:7. D'accord ? Comme une déclaration de foi. On va le déclarer ensemble. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Voilà. Merci Seigneur.